Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi, de rentrée du 2 septembre, on a un jour d'avance sur les écoliers, mais on est au complet avec Michel Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour aborder la rubrique internationale, nationale et éventuellement locale. Rubrique internationale d'abord, je crois que le sujet qui s'impose... C'est quand même la Syrie, puisque la ligne rouge est passée au vert, Hollande est bloquée au stop, enfin, beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Je vais peut-être laisser Michel commencer, et puis on discutera un peu.
Oui, alors, que de péripéties, de retournements, de situations. Donc on voit bien que la France... dans cette affaire est plus que jamais suiviste, elle qui voulait nous faire croire par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, que c'était elle qui allait, donc il donnait le là, qui allait mener les actions dites punitives hein, contre la Syrie. On voit bien aujourd'hui, faute... à Barack Obama d'avoir voulu solliciter donc le Congrès, que la France se retrouve un peu à la remorque, et elle le dit elle-même, hein, du moins les officiels de l'Élysée ne se cachent pas, hein, donc ils attendent, ils sont en position d'attendre. Donc c'est dire le peu de profondeur stratégique hein, de la France sur ce dossier. On est vraiment, et c'est un peu honteux, on est dans une politique suiviste. On est dans une politique qui est de l'ordre de la com, je pense, pour notre président, mais sans aucune espèce de profondeur stratégique quant au dossier syrien, donc quant à l'après-coup, les conséquences. Donc on peut se poser aujourd'hui légitimement la question de si jamais frappe il y a, d'ici dans une semaine, dans 15 jours, qu'est-ce qu'il en sera après? Quelle sera l'attitude de la France? Si une offensive tout azimut des forces régulières syriennes contre les insurgés, si les armes chimiques prétendument utilisées donc par le régime de nouveau sont sur les terrains d'opération, comment réagira la France?
Oui, il y a beaucoup de questions nationales, internationales. La première qu'on se pose, c'est pourquoi Obama, on sentait vendredi qu'il attendait le départ des gens de l'ONU, qui étaient là pour enquêter et qui devaient partir à 7h et qu'on a fait partir à 5h. On pensait qu'il allait donc immédiatement après déclencher les bombardements, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et finalement, non.
Temporisation.
Oui, vas-y, Robert.
Non, je dis qu'ils allaient croiser les Tomahawks.
Les uns et les autres.
Les experts, oui, sûr.
Oui, pratiquement, hein, c'était ce qui était annoncé, quoi. Et puis, bon, changement de stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Obama? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Bon, officiellement, il demande l'avis du Congrès avant de se décider, mais pratiquement, il a différé d'une semaine son projet. Alors, est-ce qu'il a d'autres raisons qui le poussent à ça? Et en France, on se trouve presque dans une situation en parallèle, c'est-à-dire que Hollande, qui lui était partant aussi, bon, bien sûr, il n'a pas voulu y aller tout seul, et le voilà qui maintenant met ça mercredi en débat devant l'Assemblée nationale. Moi, il y a un truc qui me semble intéressant à noter, c'est que c'est peut-être la première fois dans l'histoire, depuis je ne sais pas combien de temps, en tous les cas, en 14, on n'a pas fait voter l'Assemblée nationale pour déclencher la guerre, quoi. Et là, pour la première fois, alors que la Constitution permet au président de passer outre un avis du Parlement, on en est presque à souhaiter qu'il y ait un vote, alors que c'est l'UMP qui, en 2007 ou 2009, a instauré elle-même la simple nécessité d'avoir un débat au Parlement sans vote. Dans un cas pareil, le président pouvait décider sans l'avis du Parlement. Et ça, ben, c'est une inflexion peut-être de la politique. Est-ce qu'on va vers plus de démocratie avec une telle inflexion? On peut se poser la question qu'en France comme aux États-Unis, on a envie de référer aux représentants du peuple avant de prendre une décision présidentielle.
On peut se poser aussi la question, c'est pas finalement à l'ère de la com, à l'ère des sondages tout azimut où on a quasiment un sondage par jour concernant les intentions des Américains, donc des citoyens américains, dans leur soutien donc au président sur ce dossier syrien, où on voit que depuis plus d'un mois, sondage après sondage, on en est à peu près à deux tiers, donc de 60 à 75% donc de l'opinion publique américaine qui serait contre l'engagement américain en Syrie. Donc c'est peut-être aussi cette prise en compte aujourd'hui, hein, où à l'ère des sondages du président américain, de diluer les responsabilités donc en faisant appel donc au Congrès, si jamais ça se passait mal, si effectivement ces frappes dites punitives n'avaient aucune espèce d'effet sur le terrain. Et on a du mal à croire effectivement qu'on puisse en rester là.
Oui, ce qu'on voit mal aussi avec ces frappes, c'est quel objectif, quoi. Bon, le méchant Bachar a frappé avec les armes avec lesquelles il aurait pas dû, on va le punir, mais on n'avance pas beaucoup politiquement dans la résolution du conflit avec ça. Une fois qu'on aura détruit quelques bases militaires et radars, ce conflit ne pourra avoir que d'issue politique, on le dit depuis le début, peut-être une partition du pays, on sait pas. Mais en tous les cas, c'est pas ça qui va y conduire, quoi.
Tout à fait. Donc certains disent que au département d'État, on est un peu cynique, c'est-à-dire que on est bien content d'avoir affaibli le régime syrien de Bachar al-Assad, mais on se rend compte que on ne peut pas compter sur les insurgés avec quelques velléités démocratiques, et que c'est surtout les forces islamistes al-Nusra qui prendraient le dessus, et on est bien content de ce statu quo donc qui perdure. D'où effectivement ces frappes punitives qui ne vont pas s'attaquer directement à Bachar al-Assad, hein. Les choses sont assez claires. Il est hors de question donc de zigouiller Bachar al-Assad. Il est question donc de frapper, de montrer que les États-Unis sont les maîtres du monde. Il est question d'affaiblir quelque peu la soldatesque syrienne, mais d'aucune manière donc de faire en sorte actuellement, hein, en l'état actuel des choses, d'aucunement de faire en sorte que les insurgés, puisqu'on sait que le gros des insurgés sont à tendance islamiste, prennent le dessus donc sur l'armée régulière.
Oui, on a même vu que la Ligue arabe ne voulait pas s'engager aux côtés de Obama et de Hollande dans cette affaire, quoi. La Ligue arabe qui regroupe bien sûr des pays sunnites aussi et qui ne veulent pas aller jusque là.
Ça se comprend très facilement. Déjà, si la Ligue arabe s'engage, le conflit il explose au Liban. On a du mal à croire effectivement que le Hezbollah, soutien du régime syrien, laisse faire les choses si jamais la Ligue arabe s'engage aux côtés donc des Américains. On a du mal à croire effectivement que la Jordanie, alliée des États-Unis, reste sans prendre de coups de la part des Syriens. Donc en l'occurrence, on se rend compte effectivement à travers ce dossier syrien que les enjeux ne touchent pas à proprement parler tout le pays, mais elles sont beaucoup plus larges et pourraient toucher toute la zone du Moyen-Orient.
Voilà, Robert, tu avais peut-être quelques commentaires aussi.
Mais j'ai fait le rapprochement avec l'histoire, notamment l'histoire de l'Irak. On se souvient que dans un premier temps, en 1990, on a dit on attaque Saddam Hussein, mais on le laisse en place. On se contente de l'affaiblir, de comme on disait, libérer une partie du territoire, notamment la partie kurde. Et puis finalement, 10 ans après, on a dit finalement, il faut abattre également Saddam Hussein. Et aujourd'hui, tout le monde constate que cette seconde étape a été l'étape de trop, l'étape destructrice catastrophique qui produit les effets que l'on sait aujourd'hui en Irak. Alors visiblement, peut-être que l'histoire, enfin les grands disons de l'Occident retiennent, essayent de retenir peut-être un peu les leçons de cette histoire. C'est à espérer. Deuxième point, je voulais ce que tu disais par rapport au comportement de Hollande pour ce qui concerne l'engagement de la France sur le plan militaire. Tu faisais référence à 14-18.
Oui, puis à toutes les autres guerres, finalement. On n'a jamais voté pour une guerre.
Oui, mais on ne peut pas comparer la situation du président de la République à l'époque de la République parlementaire, hein, 3e, 4e République, et le pouvoir absolu, quasi monarchique, que détient le président de la République sous la 5e République, ce qui, effectivement, change beaucoup de choses. C'était pas en régime parlementaire, mais le président de la République d'abord était faible, et en fait c'était le gouvernement qui prenait la décision et que le président de la République entérinait tout simplement. Ça, c'était comme ça que ça fonctionnait avant la 5e République. Mais sous la 5e République, il paraît indispensable, c'est un minimum démocratique que de faire voter le Parlement sur cette question-là. D'autant que, par exemple, les Anglais, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, ont quand même accepté de le faire et ont été désavoués dans l'idée d'engager la guerre. Et Obama est un peu la même situation vis-à-vis de son congrès.
Voilà, prochaine échéance, donc 7-8 septembre pour le congrès américain, mercredi pour le Parlement français, à suivre. Donc pendant ce temps-là, bien entendu, la guerre continue. On a parlé de 26 morts hier, et puis Ban Ki-moon qui essaie de rencontrer le Conseil de sécurité que les Américains, enfin ceux qui voulaient effectuer les bombardements ces derniers jours, avaient contourné allègrement en estimant qu'ils ne pouvaient pas obtenir un accord de sa part. On peut d'ailleurs que se désoler que cette noble institution qu'était l'ONU quand elle a été créée en 1945, qui devait régir et régler tous les conflits du monde, finalement se retrouve presque comme la SDN, marginalisée, un peu mise de côté. Et, si on lui confie certaines tâches et missions, il y en a d'autres dont on se passe allègrement de l'ONU, et c'est assez dommage, quoi, éthiquement parlant. Voilà, vous aviez l'un ou l'autre autre chose à ajouter sur ce conflit-là, ces répercussions? On a parlé un peu du Liban. Ben oui, le Liban forcément se trouve lui aussi de ce fait au bord de la guerre civile, même si c'est pas la même, avec des gens qui ont l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu il y a 20 ou 30 ans, quoi.
Oui, dans un autre contexte. C'était effectivement un conflit interreligieux pratiquement à l'époque. Et paradoxalement, la Syrie, avec ses méthodes implacables, avait ramené la paix. Bon, c'était la paix syrienne, mais au moins la guerre de destruction entre chrétiens et musulmans avait de ce fait cessé au Liban. Et d'ailleurs, le Liban, si j'ai bien suivi ce qui se dit, le Liban est contre une intervention militaire en Syrie. Enfin, c'est le pouvoir, le gouvernement et la présidence de la République.
Ils pensent que ça va exaspérer les tensions chez eux, quoi.
Bah, le destin du Liban est intimement lié à celui de la Syrie et vice-versa. On ne peut pas imaginer donc une Syrie en lambeaux, donc plus d'État centralisé, donc des régions qui seraient autonomes ou indépendantes, je ne sais pas, enfin un nord kurde qui demanderait son rattachement à qui, à l'Irak, à la Turquie, je ne sais pas, ou qui demanderait son autonomie, la région donc alaouite près de la Méditerranée qui serait le fief du reste de l'armée de Bachar al-Assad, enfin. Si on en arrive à ce morcellement de la Syrie, faut surtout pas croire que le Liban reste à l'écart. C'est pas possible. C'est tout le monde en a plus ou moins conscience. À commencer donc déjà par les communautés alaouites du nord du Liban, à commencer par par les chiites libanais, par le biais du Hezbollah, qui savent très très bien que c'est leur mort politique. Hein, si jamais effectivement la Syrie de Bachar al-Assad implose. Et ensuite, on voit bien que si sur ce dossier les Iraniens ne veulent pas lâcher le morceau, ils ont compris que ça signerait donc leur isolement quasi total, hein, la chute du régime de Bachar al-Assad. Il n'y aurait plus d'alliés dignes de ce nom dans la région, donc de l'État iranien. Et de même pour la Russie, qui avait quelques velléités avec l'ouverture de ses facilités militaires dans la base navale de Tartous, et qui, on voit bien sur ce dossier-là, alors que elle avait été quelque peu suiviste sur le dossier libyen, sur la Syrie, elle ne lâche absolument rien, à tel point qu'on pensait qu'on était revenu à la guerre froide cet été, puisque Obama et Poutine avaient fait chacun des siennes, faisant comprendre l'un à l'autre effectivement que c'en était fini, qu'on ne lâcherait pas le morceau et que chacun avait donc avant tout des intérêts supérieurs stratégiques et que ceci primait sur toute autre considération.
Voilà, autre sujet, on peut dire quelques mots de l'Égypte où le procès de Morsi, ça traîne pas, hein, commence, il est jugé pour incitation au meurtre en décembre 2012, il y aurait eu 7 morts dans des manifestations de répression, ça laisse un petit peu pantelant parce que quand on pense aux centaines de morts de ces dernières semaines et que là il n'y a pas de procès ni de jugement, on peut se demander, bon, deux poids, deux mesures, et en même temps c'est sûrement un prétexte pour repousser une fois de plus les frères musulmans. D'ailleurs, leur leader, leur guide suprême, comme ils l'appellent, Mohamed Badi, est mort d'une crise cardiaque en prison ces trois derniers jours.
En fait, ce procès, c'est pour pouvoir le maintenir en prison. Je crois qu'il n'a pas d'autre raison d'être, le procès de Morsi. Oui.
Le procès de Morsi, le procès des frères musulmans, puisqu'on s'oriente vers une interdiction pure et simple, donc des frères musulmans en tant que parti ou association, donc la dissolution totale et la mise à l'ombre de tous ces dirigeants et têtes pensantes. Mais là aussi, on est abasourdi donc par le silence, hein, de nos démocraties. Tu parlais de centaines de morts, on parle sous couvert de plusieurs milliers de morts, hein, depuis un peu moins d'un mois en Égypte. Et là aussi, sur ce dossier, on a du mal à croire effectivement qu'on puisse juger Morsi. On va pas soutenir, hein, les frères musulmans, mais dans le même temps, ça s'est fait avec une violence et contre tout respect démocratique. Et nos démocraties ont tout mollement condamné, puisque aucun des pays occidentaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique, n'ont supprimé leur aide ni militaire ni civile aux nouvelles autorités en place. Donc on peut dire que oui, c'est la junte militaire qui a pris le pouvoir, qui sous couvert de retour à une pseudo-laïcité instaure finalement une politique de parti unique. Hein. Faut pas croire qu'il y aura une démocratie digne de ce nom qui va se mettre en place, c'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, les frères musulmans, c'était aussi l'aspiration d'une très grande partie du peuple égyptien. Et c'était dans ces soubresauts qu'était le printemps arabe, donc c'était quelque chose de tout nouveau, d'avoir condamné donc ce printemps arabe en Égypte comme on l'a fait, parce que il ne plaisait pas aux intérêts, bien compris des occidentaux, faut dire les choses comme elles sont. Faut pas croire que ça sera sans conséquences, hein. Ça va avoir des conséquences dans les années, dans les décennies à venir, et des conséquences très très graves. Et étonnamment, une démocratie musulmane, enfin digne de ce nom, la démocratie turque. Donc le parti de l'AKP de Erdogan donc s'en est ému et donc a condamné elle fermement donc le renversement de Morsi, un des rares pays qui est condamné. Puisque effectivement Morsi se servait de la Turquie comme exemple d'un pays musulman qui avait réussi hein, d'un point de vue économique et qui pouvait conjuguer tradition musulmane avec modernité économique.
Voilà, autre sujet Robert que tu voulais aborder.
Oui, cette fin de semaine, jeudi, vendredi, grand raout à Saint-Pétersbourg, c'est le G8, G20 qui se réunit. Alors on y discutera des grandes échéances, surtout économiques et financières. Fera le tour des hauts lieux de ce qui constitue aujourd'hui l'économie capitaliste, que ce soit le FMI, l'OMC, les différents regroupements continentaux. Alors pour la petite histoire, les journalistes en mal d'événements surveilleront les regards de travers entre Poutine et Obama. Et puis aussi, par contre, plus sérieusement, dans la coulisse aussi, on discutera forcément de la Syrie. Et au-delà de la Syrie, du chaos qui sévit par la faute des Occidentaux, qui sévit dans tout le Moyen-Orient et même un peu au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui et demain, c'est-à-dire 2 septembre et 3 septembre, il s'est ouvert parallèlement à Saint-Pétersbourg un contre-sommet. Ce contre-sommet avait été initié dès le mois d'avril par une rencontre qui s'était tenue à Moscou avec des experts en économie, surtout évidemment des experts anti-libéraux. Cette initiative a pris le nom de, on appelle ça le post-globalisation, la post-globalisation. Bon, on comprend bien le sens de cette expression, c'est-à-dire que pour les analystes de ce contre-sommet, depuis 2008, on est entré dans une phase de non pas d'anéantissement, parce que l'anéantissement du capitalisme, c'est peut-être pas encore demain la veille, mais déjà de processus de destruction, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se reconstruit pas au fur et à mesure, mais un processus global de destruction en cours du capitalisme, et donc de la nécessité de mettre en place des alternatives. Qui aujourd'hui est donc à Saint-Pétersbourg au nom de la post-globalisation? Eh bien, on retrouve un peu des gens qu'on a dans les forums sociaux concernant les experts économiques, experts sociaux, experts financiers, mais aussi là aussi les mêmes des associations de la société civile. Alors ça n'a pas l'ampleur, hein, ça n'est pas des milliers de personnes comme lors des forums sociaux, mais c'est quand même quelque chose qui reste dans cette trajectoire de chaque fois opposé au rassemblement des grands de ce monde, pour la plupart, sinon la totalité, branchée sur le capitalisme. Il y a d'opposer une globalisation d'une riposte alternative. Et je signale qu'on peut trouver attaque en France, mais puis sans doute d'autres sites, mais on peut aller sur le site d'attaque, le site informatique d'attaque, et beaucoup d'informations, et notamment une très belle explication sur de plusieurs pages sur ce sommet et surtout sur le contre-sommet qui donc est en cours depuis ce matin lundi à Saint-Pétersbourg.
En marche, pour rester un peu dans les pays slaves, on va dire quelques mots des femmes en Ukraine qui finalement se sont tirées et ont trouvé refuge à Paris sous diverses pressions, attaques et tout, et sentant qu'elles allaient se retrouver en tôle sous peu, elles ont finalement pris, les femmes ukrainiennes, la décision de fuir le pays et de venir en France. Voilà, d'autres sujets, Michel, tu avais autre chose? On dit rien de l'Afrique, un petit peu, avec le Sénégal qui a changé de Premier ministre, une femme, Minata Touré, est devenue Premier ministre. Je ne sais pas quel virage politique ça représente. Est-ce que c'est simplement une disgrâce de l'ancien Premier ministre qui fait de cette femme qui était déjà au gouvernement une nouvelle première ministre dans le pays. Qu'est-ce qu'on avait aussi, le Nigeria aussi, où Boko Haram a attaqué des ministres d'autodéfense, et il y aurait eu ces derniers jours 24 morts, et puis le Congo, où le M23 peut-être sentant que la pression contre lui s'accentue au-delà de ce qu'il peut supporter, a décidé de reculer, c'est peut-être simplement stratégique pour le moment, de reculer pour le moment et d'évacuer des zones qu'il occupait.
On reste dans le secteur avec le Niger, où il se passe des drôles de choses. Au Niger, il y a eu des mouvements de foule, des manifestations. On dit que c'est des manifestations contrôlées par personne. C'est surtout des manifestations de protestation parce que... aussi bien dans les grandes villes, mais pas seulement, il y a une surveillance tracassière de la police et souvent suppléée par des policiers, des militaires français. Alors, on sait pourquoi au Niger ça se passe comme ça. Bon, effectivement, il y a eu d'abord des attentats qui, y compris, visaient les intérêts d'Areva, qui exploite les mines d'uranium. Et donc, c'est des manifestations, on dit que c'est beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, ils auraient, alors là, c'est pas clair ce soir, ils auraient pris en otage quelques Français qui passaient par là, dans les rues. Alors, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est en cours? Mais c'est une espèce de ras-le-bol général, dit-on, notamment de la jeunesse, qui est contrôlée au faciès, un peu, on sait ce que ça veut dire dans les banlieues françaises, contrôlée au faciès, et que on essaye de détecter partout si parmi eux il n'y a pas un terroriste en puissance.
Voilà, on dira quelques mots du Japon, où TEPCO découvre, quelle surprise, que ça fuit toujours. Alors, on cherche un plombier pour réparer la fuite, et les Japonais sont tout à fait étonnants. Ils continuent de considérer Fukushima comme un épiphénomène venu d'on ne sait d'où. Il y a, paraît-il, un millier de cuves, et il y en a qui fuient, il y en a où on découvre des niveaux de radioactivité qui augmentent de 20 fois en une dizaine de jours dans ces réservoirs, mais le Premier ministre a dit qu'il allait assainir la situation, donc on peut lui faire confiance et puis nous continuer à exploiter nos centrales de Belleville, Fessenheim et autres.
Juste après.
C'est assez grave ce qui se passe. Enfin, c'est plus que assez grave, naturellement, parce que au niveau de la contamination que l'on vient de découvrir, quelqu'un qui serait exposé sans aucune protection ou avec le minimum de protection habituelle, eh bien, au bout de 4 heures d'exposition, pourrait considérer que la mort est certaine et brève, et à brève échéance.
Oui, Michel ?
Oui, le scandale à Fukushima, c'est TEPCO, donc l'exploitant, le responsable, et aujourd'hui, l'expert qui évalue effectivement la contamination et celui qui traite la contamination. Donc là, l'État n'agit pas du tout sur ce dossier-là. Et l'opinion publique japonaise amorphe, un peu suiviste, hein, n'a pas pris encore vraiment la mesure du scandale, à savoir que c'est une compagnie de droit privé donc qui gère et qui s'occupe de tout. Et donc comment faire confiance déjà à cette compagnie qui, avant la catastrophe de Fukushima, nous disait que ça ne peut pas arriver. C'est arrivé. Et aujourd'hui, il nous dit c'est en voie de résorption, il n'y a pratiquement plus effectivement de radioactivité, et on voit bien qu'elle est toujours présente et on ne sait pas l'expliquer. C'est tout le souci.
Voilà, autre sujet, Michel, international, on arrête là. Peut-être non. Un mot des Allemands aussi, qui sont en pleine campagne. Donc, Merkel avait hier un débat public avec Steinbrück, ou du moins dans les médias, la télévision. Match nul, nous disent les observateurs. Il est à peu près clair que le parti de droite en Allemagne conservera le pouvoir et elle gardera sa majorité. Steinbrück ayant beau agiter des revendications au profit des plus pauvres et des travailleurs, comme l'instauration d'un SMIC à 8,5 € de l'heure, il n'y a pas de SMIC en Allemagne, il n'est pas sûr que ça suffise à faire basculer l'opinion pour renverser le vote des Allemands, qui restent très conservateurs, assis un petit peu sur leur coffre-fort, leur magot et leur industrie qui les produit.
Et qui a été surtout pour l'électorat de gauche, qui a été échaudé par l'expérience Schröder, lorsque Schröder, effectivement, a mis en route toutes les lois qui ont été des lois scélérates qui rognaient sur les avantages aux chômeurs et puis à d'autres catégories sociales. Et que la droite, d'ailleurs, avait approuvé et continue de défendre, naturellement, s'appuie dessus.
Allez, pause musicale avec Tonio Gemem, le mec errant.
Tu es le mec errant, aux guiboles impatientes. Non, non, tu n'es pas fait pour un pas régulier. Boulot après boulot, tu reprends la tangente. Des fois tu es clodo, des fois t'as de la monnaie. La route et l'horizon, ceci est ton destin. Toute une vie sur les chemins. Va tire-toi vagabond, tant que tes pieds t'accompagnent. Pose ton regard sur tout et enjambe le monde. Bonheur d'un feu de bois, quelques accords de guitare. Matin, nouveau départ, ce vieux soleil t'inonde. La route et l'horizon, ceci est ton destin. Toute une vie sur les chemins. Au cours de tes ébats, tu croiseras la fillette avec qui tu vivras le presque grand amour. Tu pourras visiter sa petite chambrette, mais tu repartiras éternel troubadour. La route et l'horizon, ceci est ton destin, toute une vie sur les chemins. Prends le large routard, tant qu'il fait bon partir, tant que les mers le moqueur entonnent leur concert. Ce jour est tellement beau, t'as envie de courir en compagnie de ta maîtresse, la fille de l'air. La route et l'horizon, ceci est ton destin, toute une vie sur les chemins. Méfie-toi des képis, toujours prêt à punir, d'empoisonner la vie dans des prisons dégueu. Quand ça m'est arrivé, je ne pouvais que sourire, eux les laquais du roi et moi le roi dégueu. Je songeais à la route se déroulant au loin, toute une vie sur les chemins. Allez, use tes pompes, tout n'est pas bétonné. Use-les, use-les, car le temps t'est compté. À peine un court moment, tu ne peux t'attarder. Au bout de cette route, il y a le gibet qui ira au paradis ou alors en enfer. Mais vite tu te feras la paire, t'ira au paradis ou alors en enfer. Mais vite tu te feras la paire.
Mekeran, Tonio Gemem, vous l'écrivez ou vous l'entendez comme vous voulez, en deux mots ou en un seul. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 2 septembre, c'est la rentrée demain, c'est déjà la rentrée aujourd'hui pour les profs et aussi pour les journalistes du Canu Info. Et on aborde la rubrique nationale avec peut-être un grand hommage à M. Moscovici rendu par Robert.
Oui, oui, oui. On a été, non pas surpris, parce que son positionnement à droite du PS et puis ses options pro-capitalistiques ne trompent plus personne depuis longtemps. Et, bon, mais il a fait une splendide démonstration devant le MEDEF que il n'y va pas dans cette dimension vraiment en reculant. Il a fait j'ai noté deux déclarations extraordinaires qui auraient pu soulever l'enthousiasme des patrons réunis donc dans cette université du MEDEF, mais bon, ils l'ont applaudi, mais pas trop quand même, parce que ça aurait fait désordre par rapport à leurs propres options, par rapport à la droite et tout ça. Ils ne pouvaient pas quand même se lever et faire une standing ovation à Moscovici. Alors, ces deux déclarations, c'est bon, à Moscovici qui dit bon, actuellement, 57% du PIB, donc du produit intérieur brut, va à la dépense publique. Et alors là, dans un cri du cœur, il a dit « ça ne va pas, il faut que ça change, ça ne peut plus durer ça ». 57%, c'est beaucoup trop. Et déjà, il a ajouté, eh bien, dès 2014, on va réduire de 14 milliards cette ponction au titre de la dépense publique sur le PIB. Deuxième déclaration, tout aussi consternante, eh bien, il a confirmé d'ailleurs, en fait, ça avait été dit, mais pas trop repris, et d'ailleurs Hollande ne s'en était pas vanté. Le crédit d'impôt compétitivité, il est sans contrepartie. Bon, ça a été dit, mais en même temps, ça n'avait pas été dit avec autant de fermeté. Et donc, Moscovici rappelle que le crédit d'impôt compétitivité est sans contrepartie, on ne demande rien en contrepartie au patronneur, et plus grave, sans contrôle fiscal. Alors là, sans contrôle fiscal, je ne savais pas qu'en France, la loi permettait de faire des choses sans contrôle fiscal. Et bien voilà, désormais on peut. Alors bon, peut-être que pour avoir recours Je ne sais pas à quelle institution, le tribunal administratif ou peut-être y compris pour juger de la constitutionnalité de ce genre de déclaration. Toujours est-il que bon ben voilà, on a là du Moscovici pur jus.
Moscovici, Valls, même combat. Pour le moment, Taubira 1, Valls 0 dans le match qui les oppose, puisque Hollande a choisi de retenir les propositions de Madame Taubira pour la présentation de la prochaine loi pénale qui sera discutée. Si tout va bien au mois de septembre-octobre, c'est ce qu'elle souhaite, mais on peut redouter que le pouvoir, le gouvernement choisisse de laisser passer les élections municipales et reporte ça au milieu de l'année prochaine. Donc pour le moment, on ne sait pas. En tous les cas, le contenu de la réforme qui est retenue dans la loi impose un certain nombre de changements, c'est-à-dire la contrainte pénale qui remplace la peine de probation hors la prison serait applicable, qui était applicable pour les peine de moins de 5 ans serait maintenant applicable pour s'il y a une déficience, le prévenu devrait faire la moitié de sa peine, mais devrait être applicable avec moins de rigueur. Les peines planchers sont supprimées aussi, en particulier c'était les minimales en cas de récidive, quoi. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Suppression de la révocation automatique du sursis simple. Les sorties sèches qui représentent actuellement 80% sorties sèches chez les gens qu'on met à la porte de la prison du jour au lendemain sans autre préparation. Donc ça devrait être préparé par des mises en place de bracelets électroniques et une libération partielle donc auparavant. Et puis l'aménagement des peines, donc jusqu'à 2 ans depuis 2009, serait ramené à 1 an pour les primo-délinquants et à 6 mois pour les récidivistes. Globalement, les juges se déclarent plutôt satisfaits de ces mesures. La réserve qui est exprimée, ben, c'est que tout cela demande des moyens de suivi, d'assistance, et que pour le moment, ben, on n'a pas trop parlé des moyens, on a parlé des décisions à prendre, mais pour qu'elles soient suivies des faits, bon, sans compter qu'il faut voter la loi, il faut que les décrets d'application passent, tout ça, du temps va s'écouler quand même avant que ça soit mis en place, et on aura donc l'occasion d'en reparler. Voilà, sur le plan social, je voulais dire un mot des Conti, les Continentales. Finalement, les juges Prud'Homo ont décidé que le licenciement avec motif économique n'était pas valable. Ça date déjà quand même de 2009, hein. 1113 personnes ont été virées. Et donc, il y a une condamnation pour la moitié des salariés de la boîte qui devra payer des sommes assez importantes. Ça va dans les 50-60 000 euros. Ceci dit, Continental fait appel et l'affaire n'est pas terminée. Sur le plan social, on notera quand même que en 2009, 1113 personnes ont été virées à la fermeture, qu'aujourd'hui encore, malgré la cellule de reclassement dont se targue la direction de Continental, la moitié sont sans travail. Et que un certain nombre de suicides sont obtenus et que 256 personnes de couples ont trouvé le divorce à la suite de ces événements. C'est donc un bilan social extrêmement lourd que celui de ce licenciement, même si une petite victoire est obtenue avec une indemnisation plus forte que celle qui avait été octroyée. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le patron a bien choisi là de fermer cette boîte d'une manière unilatérale, alors que rien, ni dans la rentabilité, ni dans les rendements, ni dans les bénéfices insuffisants, ne justifiait une telle fermeture.
Oui, et d'ailleurs, on se rend compte que les avocats qui ont essayé d'utiliser la récente loi, l'accord national interprofessionnel, l'ANI, pour justifier qu'il n'avait pas de compte à rendre sur son action économique, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Et il est probable qu'en appel, la direction de Continental va revenir à la charge en s'appuyant sur la NIP pour tenter d'inverser le jugement.
Mmh. Voilà. J'avais autre sujet national, oui, vas-y.
Oui, simplement, il y a, parmi d'autres, il y a l'occupation à Paris, à l'hôpital, l'Hôtel Dieu, des locaux, notamment tous ceux qui étaient destinés, qui sont encore destinés, c'est pas encore complètement fermé, aux locaux réservés aux urgences. Et donc cette occupation des locaux, au-delà de ce que ça représente sur le plan local, c'est effectivement une de plus des démonstrations que, d'une part, la politique menée précédemment par Sarkozy-Bachelot, avec notamment cette fameuse loi de rentabilité, eh bien poursuit sa route, et que pour l'instant, le gouvernement ni Hollande n'y font obstacle, et surtout ne remettent pas en cause le rôle des agences régionales de santé, les ARS, qui sont un véritable pouvoir à la fois disciplinaire, discrétionnaire, qui est prétendument attaché à la santé des Français. Ces agences régionales de santé qui ont été mises en place par Sarkozy en 2009, je crois, donc il y a 4 ans, sont toujours là et sont elles qui font la loi dans le domaine de la santé et qui décident ici ou là d'appuyer telle ou telle réforme dans tel ou tel hôpital parce que pas assez rentable.
Voilà, la croissance négative bat son plein, elle est en marche, elle est splendide, la pitié a parlé, Hollande l'a entendu, donc tout va bien. Tout va bien, peut-être pas, mais mieux en tout cas pour les profs, puisqu'aujourd'hui c'était la rentrée des enseignants, 800 000, 850 000 professeurs, avec un certain nombre de recrutements, 80 000 quoi, à répartir entre le privé et le primaire et le secondaire. Non, le privé, il est plutôt un peu moins bien servi qu'avant dans les répartitions de postes. Bon, ça ne résout pas tout. Néanmoins, on peut retenir la création des SP. Vous allez dire les sapeurs-pompiers, mais non, pas du tout. C'est les écoles de perfectionnement, de professorat et d'éducation. Il y en a 32. Ça remplace en gros les UFM. Et c'est une formation qui est plus axée sur l'alternance, la pratique et les cours. Enfin, une nouvelle structure que Payon a mis en place après avoir pas mal cogité et rencontré des enseignants pour faire quelque chose d'un peu plus concerté. Les profs se plaignent que pour ce qui est du recrutement, le nombre de gens recrutés va à peine suffire à compenser l'augmentation démographique dans les classes. Donc pour eux, tout n'est pas réglé, même si ce sera peut-être une rentrée sous moins haute tension que les précédentes et que même celle de l'année dernière. Michel, non ? Un autre sujet peut-être ?
Oui, on va dire quand même... Oui, je continue là. Oui.
Parle plus fort si tu peux.
Oui, oui. Un mot des retraites quand même, de la retraite, hein, puisque c'est le sujet de la rentrée. Héros consulte, dans la bonne tradition, consulte les patrons et les syndicalistes, a fait un certain nombre de déclarations sur comment il entrevoyait la contre-réforme qui poursuivrait donc celle mise en route à l'époque Sarkozy et qui a été combattue assez magistralement, y compris d'ailleurs paradoxalement par les gens par les socialistes, et on pourrait montrer des images des leaders du Parti Socialiste, y compris ceux qui sont au gouvernement ou même à la tête de l'État, défilant en criant avec d'autres non, non à la à la retraite Sarkozy, etc. Bon, évidemment, les temps ont changé selon que l'on est au pouvoir ou contre le pouvoir ou dans l'opposition. Le 10, il va y avoir, bon, malgré les tentatives de Hérault de noyer le poisson en faisant quelques propositions qui sont pas très intéressantes, parce que sur le fond, eh bien, c'est toujours payer plus et travailler toujours plus longtemps, c'est ça quand même qui est au fond, même si effectivement il ne va pas dans les excès que proposent la droite et le patronat. Il n'empêche que la logique de son comportement du gouvernement, c'est quand même ça. Ce qui fait que ça satisfait la CFDT, mais ça ne satisfait pas la CGT, ni la FEN, ni la FSU, ni Sud, et puis beaucoup d'autres organisations de la vie sociale et de la société civile. Et donc le 10, il y aura effectivement un mouvement qui, faut l'espérer, ne sera pas comme un mouvement éteignoir, parce qu'on sait que des fois, on fait une grande manifestation, sachant qu'on ne pourra pas faire plus après. Dans les sondages, eh bien, le rejet de cette réforme, travailler plus longtemps et donc avoir toujours moins de retraite, eh bien, est rejeté après des deux tiers des sondés. Et le grand mot d'ordre, eh bien, pour ces journées du 10 et d'autres sans doute qui suivront, c'est pas un euro de moins et pas un trimestre de plus pour les retraités et la retraite. Donc c'est un slogan très clair, hein. Pas un euro de moins, pas un trimestre de plus.
Un mot de la vie politique lyonnaise où on prépare les municipales et apparaît un nouveau groupe Écologie Lyon, un groupe écologiste qui va se positionner en face des EELV, des Verts traditionnels. Alors pourquoi ? Ben parce qu'un certain nombre d'élus, dont Gilles Buna, Giordano, Rivoire, Roy, sentent bien que les Verts ayant désigné Étienne Tête comme tête de liste vont vouloir y aller seuls en face de la liste Colomb. Et une partie des écologistes lyonnais pensent qu'il vaut mieux passer une alliance dès le départ, dès le premier tour avec Colomb. Et c'est donc ceux-là qui font cette scission et la création de ce groupe un petit peu séparé. Donc tout ça, c'est à suivre, c'est le début. Il y a beaucoup de choses dans la ville lyonnaise, puisque hier, on a inauguré les bords de Saône accessibles aux vélos et aux piétons, dans leur nouvelle configuration, du moins entre Fontaine-sur-Saône et l'île Barbe, à peu près, un petit peu plus loin. Il y a le tunnel qui a rouvert ce matin, donc les amateurs de vroom vroom sont contents, ils vont pouvoir faire vroom vroom sous le tunnel. Les habitants du Quai Saint-Vincent, eux, auront un peu moins de bouchons, ils sont peut-être contents aussi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, plus sérieusement, il y a les Roms ont été expulsés récemment de Vaux-en-Velin. Ils cherchent des lieux d'implantation. Ils en trouvent qui sont souvent sinistres en matière de confort. Et encore, on est encore dans la bonne saison. Il y en a quelques-uns qui ont été retrouvés, les zadistes lyonnais, ceux qui s'opposent à l'implantation du grand stade. Et du côté de Saint-Priest, là-bas, ça fait un certain scandale parce que la population, une partie de la population du moins reçoit très mal que les zadistes trouvent du renfort et en même temps en offrant un accueil un peu moins dégradé à ces gens qui sont démunis de tout. Voilà, je me tourne vers Michel. Tu avais un sujet qui te tenait à cœur
Non.
Même Bertone viré par François, ça ne t'émeut pas pour mettre en place l'annonce du Venezuela. Ça ne devrait pas changer la face du monde, cette affaire-là. Robert, as-tu autre chose à nous dire ou on termine en musique notre Canu Info ?
Je prends là les points de les propositions de lecture, c'est très lié un peu à tous les sujets qu'on vient de traiter. Et les notes, les propositions de lecture des éditions Silebs, hein, je crois que tout le monde connaît, enfin pas forcément, l'édition Silebs à Paris, qui rappelle certains ouvrages. Alors c'est des petits ouvrages, mais dans lesquels il y a l'essentiel. On parlait des retraites tout à l'heure. Bien justement, il y a un titre, c'est Retraite au pluriel, l'alternative cachée. C'est effectivement les propositions faites par Harry Bay et Marty, et c'est évidemment les gens de Attac et Fondation Copernic dans la collection Les Notes de la Fondation Copernic. Ça, c'est sur les retraites. On a également toujours chez Silebs propriété et expropriation des coopératives à l'autogestion généralisée de Karl Marx et Frédéric Engels. Texte présenté par Pierre Coursalis et Pierre Sarkas. C'est dans la collection 1000 Marxisme. On est toujours donc chez Silebs. Et puis sur le logement, en finir avec le logement cher. On est encore là dans la collection Les Notes de la Fondation Copernic, et c'est par l'un des grands responsables, sinon le responsable principal du DAL, droit au logement, Jean-Baptiste Hérault. Et puis enfin, puisque c'est hélas un mauvais souvenir qu'il ne faut pas oublier, c'est le Chili 1973. Venche Remos, c'est l'analyse et documents sur le pouvoir populaire au Chili. Donc c'était par Franck Godichaud dans la collection Coyoscan. Et donc c'est lié à cette période qui a précédé le coup d'État de Pinochet et l'instauration du fascisme.
Je dirais un mot aussi du rapport qu'a rendu Dominique Baudis, le défenseur des droits, qui s'intéresse et attire l'attention sur la situation des Roms, sur la situation des populations à Mayotte, et aussi sur, il s'en prend à l'administration française quelque peu tatillonne avec les plus démunis, pas seulement financièrement, mais aussi démunis d'outils intellectuels pour répondre à la complexité de l'administration, et il appelle à une meilleure compréhension des fonctionnaires vis-à-vis de la population. Voilà, ce Canu Info se termine, il sera diffusé demain matin à 8h, vous devriez sans problème pouvoir le réécouter sur internet, et nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu, ne quittez pas l'antenne. 2 minutes de musique avec... enfin, je sais que c'est la musique de François Dumont-Daillot dans une version plus traditionnelle que ce qu'il fait d'habitude, Jardin d'Hélice.